Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Au sommaire aujourd'hui, le prix Goncourt 2019. Jean-Paul Dubois est dans nos studios pour un entretien exceptionnel avec bien sûr les commentaires de nos libraires. Décryptage du Goncourt dans quelques instants. C'est le retour de la librairie verte avec une séquence grand format et deux grands dessinateurs qui publient chacun un livre sur le climat. Le belge Pierre Kroll, qui œuvre pour la quasi-totalité de la presse belge, et le français Xavier Gorce, révélé par le journal Le Monde, avec ses pingouins pseudo-philosophes. Ils sont sur notre plateau. Bonjour Pierre Kroll.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
Bonjour Xavier Gorce.
Bonjour.
On peut rire avec le climat et ce drame écologique vers lequel nous allons doucement mais sûrement. On peut vraiment en rire, Xavier ?
Oui, il faut.
Oui, Pierre Kroll.
Oui, je pense. Je fais même très malin dans mon livre, là, en citant Michel Serres, oui, qui disait « Si on ne parle de tout ça que de, avec des catastrophismes et en culpabilisant tout le monde, etc., ben, on va tous ne rien faire du tout.
Oui.
Il vaut mieux savoir se moquer de nous-mêmes et on avancera. »
Donc un peu d'espièglerie, c'est ça, hein, Xavier Gorce. Le côté espiègle de Michel Serres, vous y reconnaissez aussi ?
Tout à fait, oui. Ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de débusquer dans nos comportements, qu'ils soient privés ou politiques ou publics, etc., toutes les incohérences, et puis en rire effectivement plutôt qu'en pleurer.
Nous allons parler de ces incohérences et du climat avec vous deux tout à l'heure. Et puis il sera question d'un récit initiatique avec le Camerounais Gaston Poléfa, qui publie un livre qui divise nos libraires mais qui porte une réflexion sur le sens que nous donnons à la vie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose à Boudry et vous représentez donc...
La Suisse.
C'est parfait. En France, c'est notre libraire de Puto et ça va plutôt bien pour lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la blague. Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Elle est horrible. Elle est facile en même temps.
Ouais, mais elle est bonne.
Bon, vous êtes libraire dans la librairie Lamandier et Puto, c'est juste à côté de la Défense, collé.
Exactement.
À la Grande Arche quasiment, à côté de Paris. Merci d'être avec nous. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, vous, libraire à Montréal dans la librairie du Square, et nous serons au Salon du Livre de Montréal la semaine prochaine. Chaîne, enregistrement jeudi à 15h30, place Bonaventure en public avec Enki Bilal, Webster, Antonine Maillet, Bise et des surprises. Et on va commencer tout de suite avec un coup de gueule avec vous. Tiens, commençons dans le dur, Josiane.
Ben écoutez, ça me fait plaisir quand même. pour la première fois, en fait, j'ai feuilleté un livre des éditions Andara dans une collection, tenez-vous bien, qui s'appelle « Mon micro big ». À moi. Alors, on souligne le mot « big » parce que c'est important. Alors, Pépito le crocodile, sur la quatrième de couverture, on nous dit « c'est avec ce micro « big » à moi » écrit en lettres géantes que tu pourras entrer dans le club des « big » lecteurs. Ouais. Alors, un livre qui s'adresse aux 5 ans et plus, à qui on parle en franglais comme s'ils étaient des ados de 15 ans, j'avoue, j'ai un peu de difficulté.
Ben oui. Et c'est quoi le big alors du coup ? La traduction, enfin la traduction on sait, mais dans le livre c'est quoi ? C'est bizarre en plus, c'est un peu...
Ben en fait, il y a une page avec une illustration qui ressemble plus à un album à colorier. Sur la page à côté, on a trois mots en lettres plus ou moins grosses. Mm-hmm. Je ne vois pas beaucoup l'intérêt et
bon,
de plus,
intérêt.
C'est absolument
Allez,
pas bilingue.
On n'en parle
voilà.
plus. Pépito aime les pirates et pas nous. Merci Josiane. Enfin voilà. En Belgique, on retrouve Nathalie Clairin. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine, et vous avez un coup de cœur.
Ah oui, tout à fait.
Pour la jeunesse aussi, je crois.
Oui, pour vous parler d'un livre jeunesse absolument fabuleux, Emmanuel, il s'intitule « Les mille secrets des oiseaux » et il est paru aux éditions Rustica. Alors, quand vous l'ouvrez, vous découvrez 130 pages de rêves, des découpes en dentelle époustouflantes. C'est l'œuvre d'un naturaliste, Guilhem Le Saffre, et d'une autrice de littérature de jeunesse, Valérie Videau. Et à ce titre, ça nous parle des oiseaux dans la mythologie, la littérature, la peinture, le cinéma. Donc pour un très beau cadeau de fin d'année, tout en sensibilisant à la biodiversité.
Très bien. Il y a de big oiseaux, hein, je suppose, dans ce livre. Ça s'appelle « Les mille secrets des oiseaux ». On va recevoir des mails, hein, je suis désolé. Aux éditions Rustica, des courriels, dirons-nous. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour, Gaston Poléfa.
Bonjour, Emmanuel.
Vous parlez très bien français, jamais de franglais dans vos livres, avec une écriture très élaborée. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais on commence cette émission toujours avec une histoire personnelle, une anecdote drôle, étonnante. C'est votre tour, Gaston Poléfa.
Une anecdote qui me concerne complètement, puisque je suis né avec une tare, j'allais dire naturelle. Je dors très peu, je dors 3 heures et demie par nuit.
C'est formidable.
Ce qui a été une grande préoccupation pour mes parents. Oui. Alors à 6 mois, à l'âge de 6 mois, ils ont fait venir à la maison le père Schmitt, qui était le curé d'un quartier de Yaoundé qui s'appelle Mvolier. Et ce monsieur est venu exorciser l'enfant qui était, pensait-on, possédé par le démon. Rien n'y a fait, et mes parents subtilement m'ont poussé au sacerdoce. Ils avaient l'espoir que, lorsque je serais devenu prêtre, alors je serais sauvé.
Ah oui.
Mais je ne suis pas prêtre.
Non, vous avez failli, oui, c'est vrai.
J'ai failli l'être, à leur grand désespoir.
C'est une chance ou pas, où ça peut poser des problèmes de santé de ne pas dormir assez ?
Aucun problème de santé, parce que je vis tout ce que je fais intensément. Et mon médecin m'a dit, faites le bien, parce qu'un jour, ça s'arrêtera. Mais je pense que ça va s'arrêter pour tout le monde.
Merci beaucoup. Gaston Poléfa est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Jean-Paul Dubois.
Bonjour.
Vous avez obtenu le prix Goncourt 2019. Certains ont dit enfin. D'autres que cela récompensait votre carrière d'auteur commencée dans les années 80. Bref, tout le monde est content cette fois. C'est assez rare quand le Goncourt tombe. Comment l'avez-vous vécu ce moment-là, vous ?
Comme un moment que je vivrais dans l'existence de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ça correspond pas du tout à la vie que je mène habituellement. Donc, c'est quelque chose d'assez curieux. Vous traversez une trombe, et puis, voilà. Puis après, vous retrouvez votre vie normale, quoi. C'est très, très agréable. Et ça, surtout, diffuse énormément de joie autour.
Et cette joie, elle est contagieuse, je suppose.
C'est-à-dire?
Bah, ça vous rend joyeux vous-même.
Oui, mais c'est pas
même
pareil.
Même si vous faites un peu l'ours parfois.
Non, je fais pas l'ours, mais j'essaie de rester assez froid.
Oui, c'est vrai.
Dans toutes sortes d'événements joyeux ou tristes ou malheureux pour essayer d'apprécier la juste mesure de ce qui arrive.
Mais alors, vous êtes venu récupérer le prix. Vous avez répondu à quelques journalistes. Vous êtes reparti illico à Toulouse, où vous vivez. Du coup, on vous a fait revenir, Jean-Paul Dubois. Et vous n'aimez pas trop les interviews. Pourquoi ça? Pourquoi vous n'aimez pas parler de vos livres?
Ça me dérange pas. J'adore discuter de choses et d'autres avec des gens, mais parler d'un livre, c'est un exercice qui me paraît toujours très difficile parce que, d'abord, je suis pas brillant. Je sais pas expliquer quelque chose que j'ai fait. Il me semble que c'est comme expliquer un film, expliquer une musique. C'est un tout que vous, entre vous et moi. C'est-à-dire, moi je le fais, vous le lisez, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Mais c'est pas, on peut pas décliner à l'infini une explication qui va devenir fausse à la longue.
Bon, en tout cas, il est très documenté, ce roman-là. Vous nous emmenez au Québec, à Montréal, dans une prison, mais aussi dans la petite ville de Thetford Mines, ville de l'amiante. On y a découvert la chrysotile en 1876. Chrysotile, minéral fibreux, ininflammable et imputrescible. C'était plus de 90% du marché mondial de l'amiante. Et à l'époque, au Québec, on exploite ces mines sans considérer les alertes sanitaires.
C'est un mystère, j'ai jamais compris. C'est quelque chose d'hallucinant. Vous savez, toute une ville qui vit de l'amiante, tout est en amiante. Les églises sont en amiante, les écoles, les pavements, tout est... Et le taux de maladie n'est pas plus élevé qu'ailleurs. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Personne ne peut véritablement... Et ça s'est arrêté il n'y a pas très longtemps, l'exploitation.
Oui, elles sont fermées hein, aujourd'hui.
C'est oui, ça s'est arrêté.
Vous êtes allé là-bas pour écrire le livre?
Oui, une partie de ma famille qui est canadienne, donc il y a des choses auxquelles je ne peux pas échapper. C'est assez lunaire, c'est un truc qui n'est pas normal. C'est une vision...
Et c'est très spécial. Ça représente bien votre livre, Jean-Paul Dubois. Lunaire, c'est exactement le mot que j'aurais utilisé. Il y a un côté lunaire dans votre livre, un côté rock aussi, un côté avec plein d'aspérités, plein d'inégalités. On va y revenir, mais juste avant, on va écouter la BO de votre livre, parce que vous avez choisi une musique qui, selon vous, illustre ce roman. Et c'est la musique d'Aerosmith. On écoute un extrait et vous nous expliquez juste après. Pourquoi ce titre d'Aerosmith, Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019? Pourquoi ce titre illustre votre roman?
Et je vais être franc avec vous. D'abord, il y avait trois titres. J'avais choisi trois. L'un, c'était Arvo Pärt, qui aurait fait la partie centrale du livre. Il y avait Curtis Mayfield pour des choses bien précises. Et il y avait Aerosmith et Run DMC pour la partie finale du livre où il y a la révolte de
votre personnage,
d'un principal personnage du narrateur, et puis aussi parce que j'adore ça et que c'est une musique extraordinaire, que quand on était jeune on avait un groupe qui s'appelait le fameux Multicolor Contortionist Elastic Rock Band, et que j'aurais aimé qu'on joue des trucs comme ça parce que c'est un bonheur absolu.
Alors ça pourrait aussi illustrer les passages en prison, parce que votre personnage Paul est en prison avec un co-détenu qui est viril et massif mais aussi attachant, et depuis cette prison de Montréal, il va raconter sa vie et comment il est arrivé dans cette cellule. Vous entrecroisez comme ça les destins, celui de Paul et celui de son père. Le père est pasteur, c'est un pasteur danois qui était en France avec sa femme et son fils avant de s'exiler vers le Canada. Il a dû partir car son épouse, qui tenait un cinéma, a diffusé un célèbre film érotico-porno, va-t-on dire, gorge profonde. Leur vie bascule à cause de cette décision. Et ce film a été au centre d'un débat public sur la liberté partout dans le monde. Et votre livre est un livre sur la liberté. Vous l'avez vu, Gorge Profonde ?
Oui. Bah oui, mais je l'ai vu quand il est sorti, 2 ans après sa sortie. Mais c'est difficilement compréhensible aujourd'hui. C'est une époque, ça s'est passé à un moment où tout un univers était en train de basculer, quoi. Donc il y avait des clivages là-dessus qui étaient, c'était devenu un discours politique. Et puis il y avait aussi toute l'histoire du film qui était complètement phagocytée par la mafia qui venait récolter.
C'était l'argent de la mafia.
En liquide les recettes des films. Enfin c'est une histoire dans l'histoire. C'est un début d'une marche vers une certaine liberté de l'époque.
Mais cette liberté, elle est toute relative, Jean-Paul Dubois, face au drame de la vie. Drames familiaux, sentimentaux, on craque d'une façon ou d'une autre à un moment. On s'accroche à la vie, mais à un moment c'est trop. On n'en peut plus, et là on commet une erreur.
Je suis pas convaincu que ce soit une erreur. Je trouve que c'est le moment où... Non, mais sérieusement...
On peut pas dire ce qu'il a fait, donc...
Si, mais peu importe, mais même quoi qu'il ait fait, c'est pas une erreur d'aller au-delà de la loi, de la limite, de la décence, tout ce qu'on veut, pour reconquérir quelque chose. Quand on est humilié, la révolte des esclaves, c'est une forme d'esclavage aujourd'hui, de salariat tel qu'il est vécu par cet homme.
Oui.
C'est quelque chose.
Il est intendant dans un immeuble et il se fait humilier par
l'humiliation que
par un administrateur.
Et c'est une révolte où c'est Spartacus, quoi. Je fais rien à dire. Moi, je trouve pas ça. Je trouve qu'il n'y a pas d'erreur. La violence est une arme légitime à partir du moment.
Pourtant, on dit que rien ne justifie la violence, Jean-Paul Dubois. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous?
Non, je suis pas d'accord. Moi, il y a une proportionnalité. L'humiliation, le racisme, il y a des choses qui sont où la violence devient tout à fait justifiable. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'autres moyens, quand vous êtes humilié du matin au soir dans votre existence, dans votre statut d'être humain, il y a un moment, il faut bien quand même, ou alors vous abdiquez.
Il y a une justice pour ça, Jean-Paul Dubois.
Mais la justice n'existe pas dans ces cas-là.
On espère que si, quand même.
Quand vous êtes confronté individuellement à un être pervers, vous n'avez pas... La justice...
On a envie de le frapper, c'est sûr, ça. On est d'accord, mais on n'est pas obligé de le faire.
Mais si, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, ça me fait du bien de le faire.
Ah oui, mais vous l'écrivez, Jean-Paul. Vous l'avez déjà fait dans la vie, ça?
Je ne vais pas vous raconter ma vie qui n'a aucun intérêt.
Si, vous l'avez déjà fait dans la vie.
La notion de révolte, non, mais j'ai des proches qui l'ont fait.
D'accord.
Il y a des moments, on ne peut pas discuter de choses, de généralités comme ça.
Bon, on va aller voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Jean-Paul Dubois. Le Canada et la Suisse ont lu cet ouvrage. On va commencer avec Dominique Bressou en Suisse. Alors, quel est votre avis sur ce prix Goncourt, Dominique ?
Alors moi, le roman de Jean-Paul Dubois, je l'ai lu dès sa parution, parce que un Dubois, on l'attend toujours avec impatience. Et à la relecture pour cette émission, je l'ai encore plus apprécié. Jean-Paul Dubois, c'est une plume alerte qui écrit avec une grande légèreté pour les bons moments, mais qui gratte le papier et nos cœurs avec pour les événements tragiques.
C'est vrai. Josiane Letourneau pour le Canada, quel est votre avis, vous ?
Eh bien, ce qui m'a frappé dans le roman, c'est d'abord le ton. Quelque chose comme une tranquillité inébranlable dans la voix. Jean-Paul Dubois, vous avez un talent indéniable pour les lieux intimes, physiques et émotionnels, qui résonnent à l'intérieur de nous au fil de la lecture. Il y a une saveur douce amère qui est savamment bien dosée. On a envie d'écouter cette histoire, cette voix jusqu'au bout, même si j'ai eu un problème, je l'avoue, avec une certaine utilisation de l'argot français.
Ah oui, l'argot français, c'est Patrick, le co-détenu qui...
C'est entièrement vrai, c'est un problème que j'ai eu, parce que j'en ai parlé avec déjà plusieurs fois avec des Canadiens. Il n'y a pas d'équivalent, j'ai essayé de trouver un argot québécois qui soit l'équivalent de ce qui était écrit, et je n'ai pas trouvé. Et j'ai choisi la solution de facilité, c'est de conserver le français, pour ne pas trop me rendre ridicule en utilisant une fausse langue canadienne que j'aurais pas maîtrisée.
Il vous fallait un consultant, Jean-Paul.
Mais j'avais des consultants,
c'est
mais ils ont pas été plus brillants que moi.
Ah bah bravo, des Québécois.
Mais je vais pas je ne dénoncerai personne. Je ne dénoncerai personne.
Bon, il y a le père, le pasteur, qui va prononcer cette phrase à la fin d'une messe. Phrase qui est le titre de votre roman, Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. On va pas dire pourquoi, parce que là aussi, on dévoilerait trop de choses. Mais il a fait des choix dans la vie, et puis il montre, au final, que, bah voilà, il a habité le monde comme il a pu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette phrase, Jean-Paul ?
Vous allez trouver contradictoire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la violence qui est utilisée parfois, mais c'est de considérer, de tolérer que toutes les différences. C'est-à-dire que chacun se débrouille comme il peut dans une existence compliquée dont on maîtrise de moins en moins les paramètres, et qu'on utilise ce monde-là dans lequel on se retrouve, qu'on n'a pas choisi, dont on est les utilisateurs sans en connaître le mode d'emploi, et chacun bricole sa vie comme il peut.
Et comment vous l'habitez, ce monde-là, vous ?
Ben, comme les autres, je fais pas plus le malin que les autres, je fais ce que je peux, j'écoute à la fois Run DMC quand ça va pas, quand j'ai la colère, j'écoute Arvo Part quand je suis ému et que j'ai perdu quelqu'un, et Curtis Mayfield pour être heureux tous les jours et considérer que la vie est un truc formidable et que j'ai pas trouvé mieux.
Donc beaucoup de musique alors ?
Beaucoup.
Êtes-vous en colère contre le peuple français, Jean-Paul Dubois ? Il y a le père de Paul, le pasteur, donc, qui aime la langue française, mais pas trop les Français. Il y a deux réflexions assez désagréables, dont une où vous écrivez, il disait souvent que de toutes les nations qu'il connaissait, la France était le pays qui avait le plus de difficultés à s'appliquer à lui-même les vertus républicaines et morales qu'il exigeait des autres, surtout l'égalité et la fraternité.
Pas mieux. J'ai des problèmes, moi, avec mon pays, que j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'on devrait élire une reine d'Angleterre tous les 4 ans et ça résoudrait tous les problèmes. On vivrait dans une royauté, tout serait clair. Mais quand je vois l'éthique politique, morale, philosophique des pays nordiques, quand je vois comment ils élèvent leurs gosses, comment ils détiennent leurs prisonniers, comment vivent leurs dirigeants, qui vont au boulot à vélo, qui rentrent à vélo, qui font leurs courses sans garde du corps, qui n'ont pas de rente à vie, qui ont beaucoup moins de scandales financiers que nous, je me dis qu'effectivement, pour un pays qui veut expliquer le monde et l'usage du monde au reste de la Terre, je trouve qu'on est très très mal placé. Il faut avoir les moyens de ces comportements, il ne faut pas donner sans arrêt des leçons, faut pas. Je trouve qu'on devrait se réformer avant d'expliquer l'usage du monde aux autres.
Bien, merci beaucoup Jean-Paul Dubois.
Merci à vous.
Merci d'être venu dans la librairie francophone. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est paru aux éditions de l'Olivier. C'est le prix Goncourt 2019. Félicitations à vous Jean-Paul. Profitez-en quand même.
Hein. Je vais essayer.
On félicite aussi Karine Thuil que l'on a reçue dans cette émission et qui a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens avec Les choses humaines. À suivre la librairie verte avec Pierre Kroll et Xavier Gors pour deux livres de dessin qui interpellent sur l'environnement. Avant ça, on écoute le groupe algérien Imaran. Merci à vous d'écouter la librairie francophone. C'était le groupe Touareg Imaran avec Azaman.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Une librairie verte grand format aujourd'hui avec deux livres et deux grands dessinateurs de presse, le belge Pierre Kroll et le français Xavier Gors. Pierre, commençons par vous avec ce livre des signes qui ne trompent pas, paru aux Arènes. Dans l'avant-propos, vous racontez avoir fait des études de sciences de l'environnement. Et à l'époque, vous n'étiez pas nombreux parce que c'était au début des années 80.
Oui.
Vous étiez trois, je crois, dans la promotion.
Je crois, dans cette année-là, ouais. Comment on appelle ça, une licence qu'on fait déjà quand on en a fait une autre avant, hein. C'est une sorte de spécialité. Ouais. Moi, j'avais étudié l'architecture. Et puis, alors, c'est un peu comme les poupées russes. Quand vous avez étudié l'architecture, vous avez envie d'apprendre un peu l'urbanisme. Et puis après, l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Et pourquoi pas l'écologie. Et c'était l'époque où on voyait de plus en plus ces écologistes politiques. La Belgique a été le premier pays à avoir des députés écolos. Et moi, j'avais envie de savoir ce qu'était cette science, quoi. Et c'était impressionnant de voir que déjà à l'époque, comme le titre de mon livre, il y avait des signes qui ne trompaient pas.
Eh oui.
Vous savez, quand vous apprenez des choses à l'université, c'est pas engagé idéologiquement du tout. Donc j'avais des cours de ce qui se passe dans les mers, la pollution, etc. Et tout. Et tout était horriblement effrayant, mais les profs donnaient ça avec un calme, exactement.
Personne ne paniquait.
Voilà, personne ne paniquait.
Et personne n'en parlait. Bon, vous avez fini de dessinateur, du coup, Pierre.
Ouais.
Mais vous dessinez, vous vous exprimez sur le sujet de plus en plus, depuis toujours d'ailleurs, et on le voit dans ce livre, parce que c'est une sorte de rétrospective. Il y a 300 dessins pour le climat. Ça commence donc quand vous débutez votre carrière de dessinateur. Et vous dites que finalement, il vaut mieux avoir des dessins qui ne sont pas que pessimistes, que catastrophiques. Il faut faire rire pour faire réagir.
Oui, il y a plusieurs vertus à l'humour. Hein. Déjà, si je me moque de moi, plutôt que de me moquer de vous, Emmanuel, de moi qui mange des fraises en hiver et des trucs comme ça, ben vous allez vous dire, ben, quel con, mais en fait je fais un peu ça aussi moi, et voilà, et le message va passer autrement que si je vous accuse de faire quelque chose qui est...
Moi
qui
je mange pas de fraises en hiver.
Alors je peux trouver d'autres exemples, vous roulez jamais en bagnole.
Jamais.
C'est vrai que vous avez une bouteille en verre.
Oui, j'ai une bouteille en verre, ouais, mais je qui sais vient de Suède.
Voilà, c'est ça, en avion.
Ouais, c'est ça. Oui, voilà. On est tous coupables.
Voilà,
fait.
Donc l'humour, ouais. c'est, ça permet de prendre les choses comme ça, et puis aussi peut-être, à l'extrême, si tout est foutu, bah, autant rire, peut-être.
Bon, il faut être espiègle, hein, Xavier Gors. Avec vos pingouins nés dans le journal Le Monde, vous attaquez fort, quitte à vous faire critiquer, quitte à prendre position pour le nucléaire, par exemple.
Oui, c'est pas une conviction de... entérinée en moi. Je suis pas un militant du nucléaire, je suis pas non plus un ingénieur du nucléaire. On a un enjeu qui est en face de nous, qui est le réchauffement climatique. Et on sait que pour arriver à limiter l'impact, il faut qu'on sorte des énergies carbonées. Et là, il n'y a pas de mystère. Moi, à mon avis, on ne peut pas mener deux fronts, deux combats, un combat anti-nucléaire et un combat contre le carbone. Et donc, il y a des choix à faire. On ne remplacera pas toute l'énergie. Il faut qu'on réduise, bien évidemment, notre consommation. Là, je sens que Kroll n'est pas d'accord.
Ah non, il n'est pas d'accord.
Mais
on
va
fait
pas,
la tête.
On va le laisser parler, peut-être.
Non, mais vous êtes opposé à Greenpeace, hein, carrément.
Oui,
vous
alors,
avez interdit qu'on utilise vos dessins.
Non, parce que depuis des années, je refilais mes dessins gratos à Greenpeace pour leur lettre, Greenpeace France, hein, je précise, pour leur lettre de communication. Et puis, à un moment donné, je suis commencé à en avoir un petit peu marre de voir uniquement le combat se focaliser sur l'antinucléaire, justement parce que je trouve qu'il y a une incohérence là-dedans. Et donc, à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, là, je suis plus d'accord avec votre démarche.
Vous dites qu'il faut choisir.
Mais oui, on est obligé de faire des choix.
Pierre Kroll, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous vous attaquez le nucléaire dans votre livre.
C'est un vaste débat, on n'a pas beaucoup de temps. Ça m'étonne pas que Xavier ne soit pas militants pro-nucléaire, parce qu'on n'en a pas besoin. Et tous les gens qui veulent se faire beaucoup de pognon sur l'énergie, ils sont là pour le faire. Ils n'ont pas besoin de militants. Les seuls militants sont éventuellement anti-écolo. Anti-nucléaire, pardon. Mais moi, je ne suis pas un militant anti-nucléaire. Simplement, mon livre prend des dessins anciens pour dire, vous savez, en 1980, on disait déjà qu'on jetait beaucoup trop de plastique dans les mers. On n'a pas diminué, on n'a rien fait, quoi. Et maintenant, on a l'air de découvrir qu'il y en a beaucoup. Alors, le nucléaire, malgré ce que peut dire Xavier, ressemble un peu à ça aussi. Dans les années 80, on disait qu'il n'y avait absolument aucun risque, évidemment, qu'il ne se passerait jamais aucun accident nulle part. Est arrivé, je crois me souvenir, Tchernobyl. Ah, mais ça, c'est un pays communiste. Est arrivé Fukushima. Ah oui, mais ça, c'est sur des Japonais. Ouais. Bon, mais chez nous, ça n'arrivera jamais. Il y aura
et ça a failli
problème.
En France donc, avec le tremblement de terre dans la Drôme, puisqu'il y a des centrales nucléaires.
Donc, je ne veux pas être dramatique, justement, limite, hein. et dire qu'il y a un énorme danger là. Il y a d'autres problèmes, ceux des déchets nucléaires, dont on ne sait pas très bien quoi faire. Ceux du coût caché, parce qu'on vous dit que le nucléaire est une économie bon marché, parce qu'on ne compte pas tout dedans. Et juste pour dire à Xavier, dans mon pays, la Belgique, il y a eu des écolos à un moment qui ont participé, on a des pouvoirs de coalition, hein, nous, ils n'étaient pas tout seuls au pouvoir, et qui ont décidé de la sortie du nucléaire. C'était en 95 ou un truc comme ça. Et ils visaient 2025, donc ils ont laissé du temps. Hein. Le problème, c'est qu'on a dû mettre 3 éoliennes dans tout le pays à peu près dans cette période-là. Donc on a saboté la sortie du nucléaire. Et maintenant, je suis d'accord avec vous sur l'opportunité maintenant. On en fait un débat récemment là, à la télévision belge. On peut plus passer du nucléaire en Belgique pendant quelques années. On doit rafistoler nos centrales. Ben, pour ça. Mais c'est parce qu'on n'a rien fait.
Mais je pense que tant Xavier qu'on n'a pas trouvé une énergie massive qui puisse remplacer le nucléaire, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas comme ça. Et on voit bien l'expérience de l'Allemagne qui a du jour au lendemain supprimé son énergie nucléaire pour passer. Finalement, ils pensaient pouvoir faire la transition en passant uniquement avec des énergies renouvelables. Ils sont obligés de faire appel à ces centrales thermiques, au charbon, au gaz, etc. Et leur facture carbone a explosé. Et ça, on peut pas dire le contraire.
Pierre Kroll, vous critiquez en tout cas avec Xavier d'ailleurs l'hypocrisie des politiques et même du citoyen qui veut bien faire des efforts pour la planète à condition que ça ne perturbe pas trop son quotidien.
Ben ouais, si c'est possible, et ça j'avoue que j'en fais partie, hein, c'est possible aussi. Donc moi je suis pas un prêcheur radical d'une tendance ou l'autre. Est-ce qu'il faut que chacun en fasse des efforts à toutes les minutes de la journée pour essayer d'y changer quelque chose? La théorie du colibri, là, si chacun apporte une petite goutte, on va... Bon, ou est-ce qu'il faut une espèce de dictature écolo avec des changements de pouvoir? Je crois qu'il faut un peu tout. C'est comme, je suis pas d'accord quand il dit une énergie massive générale, il faut multiplier les sources d'énergie, c'est comme ça qu'on tiendra. Donc je pense que si je vise un peu les politiques, c'est pas de cette manière facile, un peu gilet jaune et tout ça, voilà, ils sont responsables de tout. Mais c'est parce que chacun doit faire son métier. Moi, je fais le mien de dessinateur. Le métier des politiques, c'est quoi? C'est de prendre des décisions et et ils ont peur d'en prendre parce que ce qu'ils voudraient, c'est être réélus. Alors je trouve qu'on doit les aider à prendre les bonnes décisions en leur disant, mais on votera quand même pour vous après si vous nous avez un petit peu emmerdés. Et je crois que les grosses marches qui ont eu lieu à Bruxelles, à Paris, etc., c'est comme ça qu'il faut les lire. Tous ces jeunes, ils disent en somme, eh ben, on sera d'accord si vous, je sais pas, vous augmentez le prix des avions, si vous faites ceci ou cela, ou interdisez les plastiques.
Et il y a les hommes d'affaires aussi, le business, comme on dit, le monde des affaires, avec cet homme d'affaires qui dit en haut d'une falaise, contemplant la nature, on imagine, bon, moi, je veux bien respecter tout ça, mais disons-le franchement, qu'est-ce que ça peut me rapporter?
Qu'il y ait toujours des climato-sceptiques, qu'il y ait toujours des gens qui veulent faire aucun effort, qu'il y ait des gens qui n'ont pas compris que si ou que ça dans l'écologie. Ça, on peut le comprendre. Mais qu'il y ait des cyniques qui ont parfaitement compris, mais qui disent, ah, mais si moi, je peux en profiter, s'il n'y a plus rien après moi, je m'en fous. Genre, la forêt amazonienne, c'est à moi, vous n'allez pas m'empêcher de la brûler de A à Z pour faire du pognon dans ma génération et puis démerdez-vous après, ça c'est nouveau.
On va aller voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Pierre Kroll, avec la France et le Canada. On commence par qui, Pierre?
Le Canada.
Le Canada, Josiane Nétourneau, c'est à vous.
Ben écoutez, le sourire en coin s'est installé dès la première page de votre livre. En fait, à partir de la citation de Michel Serres jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça amusant, tellement extraordinairement intelligent. Par contre, en fait, quand j'ai fermé le livre, j'ai un peu fait le constat navrant que les choses n'avaient pas suffisamment bougé. Et définitivement, votre livre, à travers tous ces dessins de presse-là, nous fait énormément réfléchir.
La France, Thomas Auxerre, êtes-vous d'accord?
Oui, en partie. Alors moi, j'ai découvert votre travail, hein. Je connaissais qu'un dessin ou deux. Alors bon, tout m'a pas fait rire. Et puis j'ai trouvé la mise en page peut-être un petit peu trop fouillie. Voilà. Par contre, ça donne vraiment
ça foisonne. Ah, ça c'est génial. Hein. On pioche comme ça, on cherche.
Ouais, c'est vrai. Bon, après moi, ça m'a donné à réfléchir, notamment sur la question écologique. Et puis bah, c'est vrai que vous êtes vraiment légitime pour en parler. Vous en parlez depuis 30 ans. Oui. C'est, voilà.
Merci.
Alors vous aussi notez des choses, Pierre Kroll, avec des légendes informatives, avec des infos factuelles. Comme par exemple, 1 milliard de pailles sont jetées chaque jour dans le monde. 1 milliard. Vous dites aussi que la pollution de l'air tue désormais autant que la cigarette. Que le tourisme a explosé entre 1950 et 2018. On est passé de 25 millions de touristes, c'était le début du tourisme de masse, à 1,4 milliard aujourd'hui. Et donc vos dessins sont expliqués par des informations qui sont concrètes.
Un minimum, j'en ai mis vraiment très très peu.
Mais c'est intéressant, ça.
Je voulais juste faire un peu écho à ces phrases qu'on entend tout le temps. Hein. On entend ça tout le temps maintenant dans des bulletins d'information, on les lit dans la presse, etc. Et chaque fois, on s'arrête devant. Mais c'est quoi ce chiffre? Chaque fois. Donc j'en ai mis quelques-uns pour justifier quelques dessins. Quoi.
Alors, il y a aussi le Père Noël, puisqu'on approche Noël, qui réfléchit à ce réchauffement climatique. Je vous vois chercher là. Oui, je vais vous le décrire, ce dessin.
Il est mal. Ouais.
Il est avec ses rennes. Et puis il dit, bah, à ce rythme-là, Noël, cette année, ça va être barbecue et piscine. Et en haut, puisque Thomas disait que ça foisonne, effectivement, en haut, il y a un petit dessin, un petit peu fouillis, il a raison, où on voit un couple avec le type qui dit, pour le réveillon, c'est barbecue, et tu sais quoi, chérie, je fais tourner le 4x4 pour être sûr que le climat ne s'arrange pas.
Oui, oui, voilà, ben, un peu comme Xavier, hein, je montre aussi parfois l'opposé pour en rire. Ou alors, il y a aussi un Père Noël qui est sur un toit et il y a une dame en dessous qui lui dit, mais touchez pas à ça, c'est mes panneaux photovoltaïques, ça m'a coûté une fortune, faites gaffe, hein, faites gaffe. Voilà.
Bon, Xavier Gorce, dans votre album Chaud de vent, il y a ces pingouins, ces indégivrables.
C'est et difficile à dire.
Ouais, il y a un dialogue entre deux de ces animaux de la banquise. C'est page 17. Lundi, pour répondre à nos besoins de consommation, il faudrait 5 planètes. Bon, on les cherche quand, ces foutues planètes? Et c'est ça, en fait.
Et voilà. On a l'impression, enfin, à travers ce dessin, ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, modifier les comportements est encore plus complexe dans nos têtes que d'essayer de chercher l'impossible. On comprend bien que si chaque pays, de son côté, essaye de prendre des mesures qui sont restrictives pour le commerce, pour la production de richesses, etc., on voit bien qu'on est dans une concurrence internationale et que si les autres ne font pas la même chose,
oui, c'est
on
ça.
Va se faire tailler des croupières économiques. Et c'est bien là-dedans qu'on est, c'est bien là
tout
où
l'enjeu
on a un problème.
Est là. Oui. Donc, et c'est pour ça que quand Trump se retire des accords de Paris,
mais c'est catastrophique.
C'est catastrophique pour le reste du monde.
C'est un signal absolument terrible et c'est effectivement, ça fout en l'air toutes les possibilités d'harmonie qu'on peut avoir entre nos pays pour essayer de faire fonctionner le levier qui est peut-être le plus important.
L'un de vos pingouins dit aussi, la pollution aurait un coût de 100 milliards par an. L'écologie pourrait devenir intéressante, c'est beaucoup de fric à se faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à l'écologie aujourd'hui. Ça donne un certain déclic, ce dessin-là, Xavier Gorce, parce que même la culture, même les médias, tout le monde parle de l'écologie aujourd'hui, ça fait de l'audience, ça interpelle et donc ça rapporte.
Alors, il y a le côté cynique dans la conception, effectivement, de l'écologie, ce qu'on appelle le greenwashing, etc. Mais en même temps, ça, je vais prendre une locution qu'on utilise un petit peu en ce moment, en même temps, si on arrivait à faire en sorte que des comportements vertueux rapportent de l'argent et qu'on arrive à faire coïncider l'économie et l'écologie, les deux préoccupations, on aurait quelque chose là qui pourrait peut-être être moteur de quelque chose.
Pierre Kroll.
On peut souvent y arriver. Hein. Vous avez parlé du milliard de pailles en plastique. Oui. J'ai vu un article dans un journal américain qui disait carrément, hein, mais comment est-ce qu'on va boire des limonades, s'il n'y a plus de paille. Je crois qu'il y a des gens en Amérique qui ne savent plus comment faire. Hein. Devant un gobelet, ils ne savent plus, s'il n'y a pas une paille, ils le laissent. Bon. Mais par contre, oui, si on interdit les pailles, voilà, c'est interdit les pailles. Comme, je ne sais pas moi, la pédophilie, le meurtre, ben bon, on interdit les pailles.
Bon, c'est pas, point, la même, point, pas c'est le même niveau, Pierre.
Non, mais je le fais exprès pour...
Oui, bah oui,
pour
quand même.
On n'utilise pas les pailles dans tous les domaines non plus.
Non, mais Xavier...
On va prendre plutôt, je ne sais pas, le port de la ceinture de sécurité. Voilà, c'est nous protéger contre nous-mêmes. On a tous admis ça, voilà. Donc, on interdirait toutes les pailles. Les fabricants de paille, effectivement, on parle d'économie, vont faire faillite. Ok, mais les marchands de macaroni, par exemple, parce qu'un macaroni dans un coca, ça marche super bien. Hein. Oui, ah non, je vous conseille d'essayer, ça marche très bien.
En économie, on appelle ça de la destruction créative. Hein, voilà. Ça rabolit pas quand on boit trop de verre avec.
Non, t'as déjà utilisé une paille pour boire ton café?
Non.
En général, c'est pour boire une boisson fraîche. Ça va très très bien avec un macaroni.
On va tester ça.
On rigole avec un truc, mais c'est pour dire qu'effectivement, si on fait de l'argent avec l'écologie, pourquoi? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas un anti...
Mais vous notez, Pierre Kroll, finalement, que c'est une histoire d'égoïste. Et il y a un dessin de Xavier Gorce, d'ailleurs, avec un agriculteur qui balance des pesticides dans son champ. Et derrière lui, il y a un observateur qui dit « Mais c'est pas un peu dangereux de consommer votre production maraîchère avec tout ce que vous pulvérisez dessus ?» Et l'autre répond « Aucun risque, je ne consomme pas, je vends.
» Et oui. Ah oui.
C'est
l'égoïsme. Faut pas leur jeter la pierre aux agriculteurs. Hein. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire.
Vous arrangerez avec Xavier Gorce. Pierre Kroll, selon vous, les couples à trois, ce serait bon pour la planète dans l'avenir. D'ici 2050, il va falloir ouvrir ses mentalités et se mettre en trio. C'est le dernier dessin de votre livre.
Ah, je me souviens plus.
Je vais vous montrer.
J'ai un dessin où il y a toute la famille qui est dans une même baignoire pour économiser l'eau.
Oui,
et ça, je sais. Mais alors, le couple à trois.
Alors c'est pas le dernier.
Mais j'ai mis ma vie privée dans mon livre. Moi. Non. Mais...
Attendez. Voilà. 2050, économie, environnement, industrie, avec un gros cœur et on a.
Ah oui.
Un
voilà,
homme
parce que...
et deux femmes.
Ah bien sûr.
Ça peut être aussi deux hommes, une femme. Hein, c'est comme
oui,
vous
d'accord.
Voulez,
parce qu'un personnage symbolise l'économie, l'autre l'environnement, l'autre l'industrie. Voilà. Exactement. Mais tout est dit dans le dessin. Je ne peux rien ajouter.
Tout est dit. Terminons sur ce sujet. Merci beaucoup, Pierre Kroll. Merci, Xavier Gorce. Les indégivrables, chaud devant, est paru chez Bûcher Chasse. Et on vous retrouvera début décembre dans la librairie francophone version télé pour une rencontre avec Hubert Reeves. Merci beaucoup Pierre Kroll. Vous, votre livre est paru aux Arènes. Et on va terminer avec une citation de Hubert Reeves qui a dit « L'homme est fou, il adore un dieu invisible et détruit une planète visible, inconscient que la nature qu'il détruit est le dieu qu'il vénère. » Et cette phrase est en exergue du nouveau récit mystique et initiatique de Gaston Poléfa, que l'on retrouve dans un instant, je vous promets que c'est vrai, tout est lié, et en plus, c'est le hasard de cette émission qui a un petit côté mystique aussi donc. Pour l'heure, voici le nouveau titre de Vanessa Paradis, merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Je le savais, le cœur a ses failles, pourtant c'est vrai. La surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché? Grandes envolées, quel fameux de cette.
C'était Vague à l'âme sœur, le nouveau titre de Vanessa Paradis.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et Gaston Paul Effat est sur notre plateau pour La Verticale du Cri, paru chez Gallimard. Alors Gaston Paul, c'est un récit initiatique et pas un roman, c'est inscrit sur la couverture. Donc ce personnage nommé Effat, qui va voir une féticheuse chez les pygmées de la forêt camerounaise, c'est vous.
Existe.
Y êtes-vous allé, Gaston Paul Effat ?
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je suis allé pendant près de 10 années. À fréquenter cette femme de peu, mais qui m'a fait tout découvrir. C'est en cela que je l'appelle un chemin initiatique, parce qu'il m'a permis, ouais, justement de me remettre sur la voie perdue.
Et c'est à la demande de votre père pour y trouver une forme de sagesse, pour comprendre aussi que la vie doit être vécue dans une forme de dénuement pour mieux l'apprécier. On est trop encombré aujourd'hui.
Nous sommes trop encombrés. On parlait aujourd'hui de dérèglement climatique. Oui. Je pense que le plus grave des dérèglements, c'est peut-être le dérèglement humain. On a tout oublié de l'humain, on a oublié l'autre et on s'est oublié soi-même.
Et la féticheuse vous dit d'ailleurs plusieurs fois « Contente-toi de vivre et tu vivras content ». C'est joli comme phrase. C'est simple. Vous y arrivez ?
La simplicité.
Vous arrivez à faire ça aujourd'hui ?
J'essaye. Ouais. C'est justement pour cela que j'ai pu écrire, pour partager peut-être, parce que je pense que aujourd'hui nous vivons beaucoup avec cette raison qui détruit quasiment tout. On veut donner sens à tout, et la difficulté, c'est de se réapproprier soi-même, c'est-à-dire réconcilier le corps et cette raison. C'est peut-être cela qui nous dispose à la joie.
Le corps et la nudité notamment, qui revient souvent dans votre récit, plusieurs fois, les pieds nus, le corps nu. Le corps, il est fantasmé chez vous, Gaston Paul Effat, ou là aussi c'est une forme de dénuement ?
Il n'est pas fantasmé, il est assumé. Le corps parle, il faut apprendre à l'écouter. Et si on écoute le corps, peut-être alors on réinvestit la raison qui aura quelque chose à dire dans ce sens.
Il est préférable d'être nu ?
Il faut apprendre à être nu, pas tout le temps. Non. Préservé de temps en temps, mais je pense que la nudité spirituelle est essentielle. Ne pas continuer à cacher et à se cacher.
L'encombrement généré par la société, Gaston Paul Effat, vous de votre côté, vous êtes plutôt encombré par les mots. On va voir comment nos libraires ont lu votre livre, mais on peut le trouver verbeux. On peut le trouver prétentieux, ce livre-là, ostentatoire dans le style, rien n'est léger dans la première partie, et vous écrivez comme ça en étalant votre culture. Vous dites même au début du livre, moi qui étais un pur diamant d'orgueil.
Eh bien, je suis content que vous ayez compris que, avant de rencontrer Tala, j'étais un pur diamant d'orgueil. J'étais un homme encombré. Et que cette femme m'a appris progressivement à me rectifier. Et je pense que ceux qui liront aussi La Verticale du Cri se mettront dans ma position. C'est-à-dire, le plus difficile va être d'entrer dans ce livre, comme le plus difficile a été pour moi de rencontrer Tala. Mmh. Donc, il va falloir apprendre à se diminuer pour que le livre peut-être nous relève.
Et à s'énerver aussi, Gaston Paul Effat.
Ah,
parce qu'on se
partie.
Dit, qu'est-ce qu'il est prétentieux, cet auteur.
Il mais était au milieu... prétentieux, je vous dis bien, il l'était et je l'assume. Oui. Et que l'initiation et cette rencontre m'ont permis de diminuer un peu, Et donc, apprenez lorsque vous allez lire. Si vous rentrez dans ces livres avec votre raison, vous êtes parti, vous êtes perdu. Il faut apprendre à diminuer pour que la flamme de Thala s'éveille en vous.
Et il faut passer la première partie parce que votre style s'allège au fur et à mesure. Donc là aussi, j'imagine que c'est volontaire.
C'est un chemin initiatique. Et toute expérience est un passage par le feu. Et le feu est douloureux.
On a tout expliqué aux libraires. On va voir ce qu'ils en pensent du coup. Les trois libraires français, suisses et belges ont lu votre récit. On commence avec Dominique Bressou pour la Suisse. Dominique.
Oui, alors comme vous le disiez, en fait, ce qui est certain, c'est que ce livre ne se lit pas du tout comme un roman. Parce que c'est inutile de tourner les pages si on n'a pas intégré le fond de la pensée de l'auteur.
Mais ce n'est pas un roman. Hein.
Non, mais vraiment
c'est
pas.
C'est marqué sur la couverture.
Mais c'est un peu paradoxal quand même, parce qu'on comprend vite que ce que Gaston Paul Effa écrit passe par des sensations physiques qu'on ne peut qu'imaginer. Et ça, c'est vraiment paradoxal. Et même si je peux pas adhérer à certains passages parlant de guérison miraculeuse, c'est quand même un exposé d'une philosophie de la joie qui est extrêmement poétique et convaincant.
C'est pas tout à fait ça, mais on va venir justement sur les guérisons, sur la maladie, parce qu'il est question de la maladie. Thomas Auxerre, pour la France, comment s'est passée votre lecture?
Eh bien, alors moi, ça s'est pas trop bien passé pour moi. Alors moi, j'ai bien aimé votre écriture. Pour le coup, j'ai vu aussi l'évolution. Mais alors, le sujet m'a pas trop intéressé. Puis j'ai peut-être aussi trop gardé ma raison. Et je me suis perdu un petit peu au fil des pages, peut-être aussi que le récit, enfin le côté peut-être trop intime de votre récit initiatique, c'était pas pour moi.
Non, c'est un homme perdu, Thomas. Désolé. Nathalie Clairin, pour la Belgique, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ah, mais moi je dirais pour commencer, c'est très positif parce que comme on est dans la spiritualité avec ce récit, c'est vrai qu'il faut être un lecteur disposé à y entrer, mais en même temps, ce n'est pas un livre d'érudition, ça se fait assez facilement. Je l'ai trouvé très percutant parce qu'une fois qu'on y est, on est véritablement pris dans un cheminement méditatif. Il permet en fait une rencontre que j'ai trouvée puissante avec l'animisme. Il donne une vraie philosophie de reconnexion à soi-même, à son corps, à la nature et à soi-même par la nature. Donc c'est un récit abordable et qui sera vraiment essentiel, vers lequel je vais revenir encore et encore.
Eh oui, on peut s'y référer à ce livre-là, Gaston Paul Effa, vous êtes content?
Je n'ai pas à être content.
Content de toi de vivre, Gaston Paul.
Il faut simplement se contenter d'accueillir et de recevoir. C'est ce que j'ai essayé de faire, donner pour que l'autre reçoive comme j'ai aussi reçu.
Alors, il y a des réflexions sur le monde, on le disait, sur la consommation aussi, sur la maladie et la mort. On va juste parler de ça quelques instants parce que notre libraire a raison. Vous parlez à un moment de votre papa qui était condamné à vivre 3 mois et qui a tenu 10 ans. Et la féticheuse vous dira que, je cite, « la maladie n'est qu'une conséquence de la rupture avec la nature et avec soi-même. Elle vient de l'oubli du corps. Il faut donc écouter son corps, car il parle. » Et vous laissez entendre qu'en écoutant son corps, on peut, pas guérir, mais en tout cas se prémunir de certaines choses.
Je pense que si on est à l'écoute de son corps, si on est dans l'harmonie avec soi-même, on peut se préserver de certains maux. Nous vivons dans un monde où la maladie est d'abord dans la relation avec l'autre et avec soi-même. Si on a trouvé ce lien, cette harmonie, cette musique peut-être entre nous, une note juste, certaines maladies peuvent reculer. Le stress, vous savez, on vit dans un monde de stress, de vicissitudes. Mmh. Que de maladies causées par le stress.
Eh oui, oui.
Que de maladies.
Arrêtez, hein. N'en parlez pas. Ça m'angoisse. Ça me stresse du coup.
Donc, j'invite, et j'aime ce que dit la libraire tout à l'heure, j'invite à ce qu'on appelle la méditation. Ouais. La méditation, c'est le moment où on prend le temps du nettoyage. Apprendre à se nettoyer, nous n'avons plus le temps de nous nettoyer. On est dans l'urgence, dans la vitesse.
Et la féticheuse vous incite à vous nettoyer. Elle vous emmène, enfin en tout cas, des gamins vous entraînent dans la forêt à 4h du matin, pieds nus, et elle veut faire en sorte que vous compreniez la nature et donc la vie. Car selon elle, vous n'avez rien compris. Et nous avons tous rien compris. On regarde sans voir, on écoute sans comprendre. Avec nos téléphones, nous prenons des photos, c'est ce que vous faites avec elle. Et elle vous dit encore qu'on a perdu la simplicité du regard. Qu'il nous faut toujours une interface pour regarder l'autre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les téléphones.
Absolument, on est rentré dans le monde du spectacle. Nous parlons d'écologie, on ne sait même plus ce que c'est qu'un arbre. On ne reconnaît pas les espèces, on ne sait pas ce que c'est que cette nature dont on parle. Et pourtant, tout le monde est dans le discours d'écologie. Donc, Thala m'a invité à quitter peut-être un peu les mots, oui, la parole pour entrer dans l'acte. Et les choses les plus simples que nous savons plus faire, elle m'a appris à les refaire. On ne s'est plus touché. Une anecdote, je rentre dans un supermarché, nous sommes, le boucher et moi, deux hommes. Un commerçant passe pour faire ses grandes courses, il se tourne vers nous. « Monsieur et dame, bonjour !» Il passe. Quand il revient, je le regarde, je dis « Lequel de deux est monsieur et lequel de deux est madame ?»« Oh, je ne vais pas regarder, vous savez, on dit comme ça sans regarder. » Voilà, ouais. Le monde dans lequel nous vivons,
c'est une formule.
On ne sait plus regarder, on ne sait plus toucher, on ne prend plus le temps de respirer, on ne sait plus écouter l'autre, s'écouter pour pouvoir écouter l'autre. C'est aussi cela qui occasionne la maladie en nous.
Vous écrivez aussi « La seule chose dont on doit être heureux dans la vie, c'est d'avoir transmis le bonheur autour de soi. » Et notamment aux enfants.
Vous savez que lorsque j'ai entendu cela dans la bouche de Tala, j'ai d'abord pensé à Spinoza. Mais aujourd'hui, j'ai oublié Spinoza pour me dire simplement, lorsqu'on est en lien avec la nature, lorsqu'on est à l'écoute des choses les plus simples, Spinoza, on n'a plus besoin de le lire, on le vit.
Et enseigner, c'est transmettre. Vous portez une réflexion sur l'enseignement. Ça va intéresser tous les professeurs qui nous écoutent. Vous êtes vous-même enseignant. Et vous dites qu'il y a un travail sur soi. Dans ce domaine-là, une prise de conscience urgente. Et vous, vous l'avez prise tard, cette conscience-là.
Il vaut mieux tard que jamais. Vous savez que les professeurs sont d'abord dans le plaisir d'eux-mêmes et parfois les élèves passent après.
Et si vous avez ça n'engage compris, que vous, ça, Gaston.
Je pense véritablement que beaucoup de collègues le partagent. Même lorsqu'on est dans l'exigence, c'est d'abord pour se faire plaisir soi-même. Parfois, on oublie l'élève en difficulté. Et si on a compris que nous sommes là d'abord comme des interfaces entre l'élève et lui-même, alors quelque chose peut se mettre en place. Et on le ramène dans ce que j'appelle la tradition, qui est le nœud de la transmission.
Avez-vous l'impression d'être enfin devenu humble, Gaston Paul Effort?
Je continue à me battre. Vous savez que lorsque vous avez coupé la tête de la bête, elle peut repousser très vite et de multiples façons. Donc je continue à me battre pour qu'elle ne repousse pas. Donc il faut être vigilant, persévérer.
Merci beaucoup Gaston Paul Effort. La verticale du cri est parue chez Gallimard. Félicitations pour ce livre qui a divisé nos libraires, mais c'est aussi ça le débat culturel. À vous donc qui nous écoutez de vous faire une opinion. À bientôt Gaston Paul.
Merci.
On termine avec deux libraires pour les coups de gueule et les coups de cœur. Et un coup de gueule en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, alors moi ce que je me demande, c'est pourquoi les auteurs suisses de romans se tournent en général vers les États-Unis ou autres pays assez lointains pour dénoncer des phénomènes de société. Parce que, à part quelques remarquables exceptions dans les polars, d'auteurs comme Nicolas Feuz, on pourrait avoir l'impression que la Suisse est un tel paradis que, un, il se passe jamais rien de condamnable, et deux, qu'on s'y ennuie mortellement. Alors moi je dis, un peu de courage aux auteurs suisses, ils peuvent écrire sur la Suisse.
Mais oui, mais c'est pour dépayser le lecteur, c'est un peu la mondialisation. Dominique. Allez, on termine avec un coup de cœur en France, Thomas Hausser.
Et oui, absolument. Pour la dernière bande dessinée de Marion Montaigne, Tu mourras moins bête, le tome 5, c'est aux éditions Delcourt. Alors c'est même un gros coup de cœur pour cette bande dessinée de cette auteure qui est passionnée de science. Elle avait déjà fait la bande dessinée avec l'astronaute Thomas Pesquet.
Dans celle-ci, je me souviens de cette bande dessinée.
C'était vraiment hilarant. Bon. Alors dans celle-ci, elle explore des thèmes insolites comme est-ce que les abeilles bossent vraiment comme des dingues, le clitoris, comment c'est fichu, ou même imagine Dark Vador faire une sorte de Shifumi intergalactique. Alors moi, ça a fonctionné totalement. Je me marrais tout seul dans le métro. Alors on a l'air un peu bête, mais franchement, on passe vraiment un bon moment. Donc c'est vraiment la BD la plus drôle de l'année.
Voilà, et puis les parents qui nous écoutent vous remercieront avec les enfants dans la voiture qui vont demander du coup qu'est-ce que c'est que le... Voilà. Merci, c'est Marion Montaigne aux éditions Delcourt. Tu mourras moins bête, tome 5. Merci beaucoup Thomas.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone avec la chanteuse belge Loose and the Yakuza.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loose à part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce es-tu sereine ou fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, 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 je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na.
C'était Loose and the Yakuza avec Dilemme, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Nicolas Delmas et Guillaume Roux à la technique. Merci Gaston Poléfa. À très bientôt. Merci Pierre Kroll. Merci Xavier Gors. À bientôt. Et à la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Tocher en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine depuis le Salon du Livre de Montréal. Enregistrement exceptionnel en public. Jeudi 21 novembre à 15h30, place Bonaventure, sur l'espace de Radio-Canada. On vous attend nombreux. Bonne semaine et bon week-end.